With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vous avez 5 minutes? La volonté d'Elon Musk de mettre Paris à 30 minutes de New York grâce à ses fusées a réveillé tous les fantasmes. Pourtant, quand on y regarde de près, cette promesse est plus complexe et surtout peu écologique et peu adaptée à nos besoins réels. Éric Vidalenque, spécialiste des questions énergétiques, pose un regard méfiant sur les annonces du milliardaire américain. Éric Vidalenque, bonjour.
Bonjour.
Elon Musk veut relier les grandes villes de notre planète à 30 minutes les unes des autres. A-t-on besoin d'un tel projet ?
Alors, ça dépend pour qui, j'ai envie de dire. Parce que souvent, quand on parle de trajet d'une demi-heure ou d'une heure, on pense à des déplacements quotidiens, des domiciles-travail. Et là, on voit tout de suite que des domiciles-travail sur des mégalopoles, bon, ça n'a pas concerné grand monde a priori. Donc, répondre dans l'absolu, c'est compliqué. En France, on voit un petit peu que sur certains territoires, le TGV a eu cet effet, en rapprochant par exemple les grandes villes de province de Paris, Tours, Reims, Lille, etc. Mais pousser plus loin et essayer de penser l'intérêt de relier des grandes mégalopoles à une demi-heure, on peut être plus sceptique sur l'intérêt. Ouais.
Il y a eu une vidéo de démonstration qui a été mise sur Internet il y a quelques jours. Est-ce que vous avez vu cette vidéo ? Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré ?
Elle vend bien le projet, mais à mon sens, elle occulte un petit peu les questions posées par un tel projet, et notamment le fait que quand on parle de 30 minutes de liaison, on fait comme si tous les temps d'approche, d'enregistrement, d'embarquement, etc., étaient inexistants. Or, c'est bien ce qui est aujourd'hui, par exemple, quand on parle du mode qui se rapprocherait le plus de ça, de l'aérien, c'est bien ce qui est structurant aujourd'hui. Quand vous prenez l'avion, ne serait-ce que pour vous déplacer en Europe, le plus de temps que vous consommez, c'est pour aller à l'aéroport, pour vous enregistrer, pour attendre. Tout des temps subis, en fait, mais le temps dans le mode en tant que tel devient réduit. Là, c'est un peu la même chose. Le temps dans le mode devrait être extrêmement réduit, puisque si on met 30 minutes pour faire New York-Paris, effectivement, c'est très court. Sauf que qui va habiter à côté de la base de décollage ? Mais pas grand monde. Et puis cette base de décollage, elle sera un peu éloignée des villes aussi, parce que ça va être très bruyant. Il y aura plein de contraintes physiques liées à ce décollage, à ces atterrissages. Donc on ne sera pas du tout au cœur des villes, on sera encore plus loin que les gares TGV mises à l'extérieur des villes.
Ça suppose une notion d'accélération de nos déplacements, mais est-ce que ça règle nos problèmes de mobilité ?
Alors ça, c'est un peu le grand objectif ou mythe des politiques de déplacement depuis un demi-siècle, c'est cette question de la vitesse, de laquelle on commence à sortir quand même un petit peu pour aller vers plus la notion d'accessibilité, notamment dans les politiques de déplacement plus locales, en tout cas. Ce qui caractérisait ça, c'était les grands projets autoroutiers. On disait, en gros, il faut accélérer les flux. Et c'est la voiture qui permet cette accélération pour tous. Et elle l'a plutôt bien permis jusqu'à il y a quelques années. On voit qu'autour des grandes métropoles françaises, par exemple, la congestion fait que cette promesse de la vitesse, en fait, elle est toujours inachevée. On court toujours après. Puisque la vitesse pour tous en même temps, ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment le point crucial, en fait. La vitesse, ça peut fonctionner que si ça reste l'apanage et le privilège de quelques-uns. Et c'est une contradiction, une tension fondamentale dans ces projets, à mon sens. C'est de les vendre comme des projets de démocratisation de la vitesse, alors que ça ne peut fonctionner que si ça concerne quelques personnes. Et cette question d'accès à la vitesse, elle est très structurante dans notre vision des politiques de déplacement, de mobilité, mais elle pose un tas de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Et avec des modes comme cela, que ce soit la fusée DFR, que ce soit l'Hyperloop, ça va être encore moins le cas, puisque ces modes-là, ils ont des débits significativement inférieur au mode de transport qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit l'aérien ou que ce soit le TGV. Par exemple, l'Hyperloop a un débit nettement inférieur au TGV. Ça veut dire qu'on transportera moins de personnes.
Alors qu'est-ce qui fait que ce genre de projet fascine et même apparaît comme étant une solution à nos problèmes quotidiens ?
Parce qu'on imagine tous individuellement, je pense qu'on arrive tous à se projeter en disant « Ah oui, moi j'aimerais bien aller là en 30 minutes, là en 30 minutes ». Mais toute la difficulté des problématiques de mobilité, c'est justement de passer de ces, de manière générale des politiques publiques, c'est de passer de cet intérêt individuel qu'on arrive facilement à percevoir à un intérêt collectif. C'est à quel moment le passage de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif se fait et à quel moment ça marche pas si on passe des effets de seuil. Là, par exemple, c'est le cas. On ne peut pas tous se déplacer très vite en même temps. Ça pose évidemment des problèmes de congestion qu'on expérimente là où c'est le plus fort aujourd'hui, c'est évidemment sur la voiture. Mais on le voit sinon sur le train, sur les avions, pendant les grands week-ends, les périodes de départ. Pourquoi les prix flambent ? Pourquoi les aéroports sont saturés ? Parce que tout le monde veut se déplacer en même temps.
Et est-ce que ces modes de transport, que ce soit la fusée ou le train Hyperloop, est-ce que ce sont des projets qui peuvent avoir un label écologique ?
Alors, un petit peu comme sur les questions économiques ou d'accès à ce mode-là, c'est difficile de répondre définitivement avec les éléments qui sont posés aujourd'hui. D'un côté, il y a des éléments techniques qui permettraient de penser sur l'Hyperloop, par exemple. Oui, ça va être plus vertueux en termes de consommation énergétique parce qu'on va être dans une infrastructure qui est sous vide d'air, donc on aura moins de frottement, on aura moins de résistance à l'air. De notre côté, on a la très grande vitesse qui est extrêmement consommatrice d'énergie. Les données de consommation énergétique du mode, en comparaison aux autres, moi qui ai travaillé un petit peu sur ces questions-là de consommation énergétique des différents modes de transport, je les comprends pas. Donc, aujourd'hui, un petit peu comme sur les questions économiques, ça reste une équation non résolue pour moi, en tout cas sur l'Hyperloop. Après, si on regarde plus particulièrement la BFR, la fusée, je vois pas là comment, avec un mode de ce type-là, on peut avoir un intérêt énergétique et écologique et environnemental. Quoi. Là, on va être dans quelque chose qui est vraiment une débauche d'énergie. Et du coup, avec un ensemble d'impacts environnementaux probablement très significatifs. Mais pour le moment, on doit un peu faire des hypothèses parce que les éléments mis à disposition ne sont pas forcément très, très explicites sur ce volet-là.
Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Au revoir.
Binge audio.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.